Frères et sœurs, les amis, nous voici arrivés au cinquième dimanche de Carême avec un texte de l'évangéliste saint Jean qui nous introduit, je trouve, admirablement à la semaine sainte qui va débuter bien dimanche prochain, le jour des rameaux. Nous sommes effectivement, comme on dit communément, dans les derniers jours avant la fête de la Pâque à Jérusalem. Alors, souvenons-nous, Jésus a fait ces jours-ci une entrée triomphale dans la ville. Le peuple a crié « Hosanna », ce que nous ferons le jour des rameaux, sur le passage du Seigneur, comme on faisait dans les grandes cérémonies. Oui, la foule qui est là présente le prend pour le Messie. Et saint Jean raconte dans les versets qui nous sont donnés d'entendre ce dimanche que des Grecs se présentent à ce moment-là et s'adressent aux disciples de Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Pas simplement l'apercevoir de loin, mais le voir, et on peut les comprendre, lui parler, le rencontrer. Alors tout le monde est monté à Jérusalem, comme on dit. Ils sont venus, ces Grecs en pèlerins, adorer Dieu durant la Pâque, et ils souhaitent une rencontre personnelle avec Jésus. Pour accomplir, j'allais dire, la meilleure démarche qu'il pourrait faire devant Dieu, une sorte d'adoration. Les disciples du Seigneur viennent donc lui dire que les Grecs souhaitent le voir, et Jésus va répondre, ça peut nous paraître énigmatique, une fois de plus, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié, c'est-à-dire tout simplement d'être révélé comme Dieu. Alors ce terme, ce mot glorifié revient plusieurs fois dans le texte que nous avons accueilli. Bon, ce n'est pas un mot difficile, mais c'est un mot qui, dans le langage moderne et courant, nous fait évoquer quelque chose qui n'a rien à voir. Disons-le simplement, qui n'a rien à voir avec Dieu. Pour nous, la gloire, c'est la gloriole, c'est le prestige, c'est l'auréole qui entoure une vedette, une star, la célébrité, enfin tout ce que vous voulez de ce genre-là. Mais dans la Bible, pas du tout. La gloire de Dieu, j'allais dire d'abord et avant tout, c'est sa présence. Une présence rayonnante, comme cela a pu se produire dans l'épisode, par exemple, du buisson ardent. Une présence qui réchauffe, qui brûle, comme le buisson, mais qui ne le consume pas. Donc c'est prouver, j'allais dire, le rayonnement de la présence du Seigneur. Et donc glorifier, c'est révéler la présence de Dieu, tout simplement. Alors quand Jésus va dire « Père, glorifie ton nom », bien on pourrait traduire tout simplement que ma personne de fils, je suis ton fils unique, eh bien tu puisses par le fils être révélé ou révéler ta présence comme Dieu Père et Dieu d'amour. C'est cela, finalement, le salut, le bonheur de l'homme. Et du reste, nous allons soit le réciter, soit le chanter tout à l'heure. Nous avons appris, nous savons très bien que c'est une des premières choses que nous demandons dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. et que ta volonté soit faite, mais tout simplement que soit reconnu Jésus le Christ qui nous a appris cette prière, qu'il soit reconnu tout simplement comme étant le Dieu, un Dieu parfait, un Dieu d'amour, et surtout que vienne ton règne. En fait, Jésus s'est incarné pour cela et pour rien d'autre. C'est ce qu'il dira dans quelques jours devant Pilate. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voilà ce que le Seigneur est venu accomplir. Alors nous avons, deuxième point de notre méditation, nous avons peut-être du mal à entendre cette vérité. Bon, je ne vais pas développer ici le thème de la vérité qui demanderait, j'allais dire, beaucoup de minutes, pour ne pas dire beaucoup d'heures. Nous avons du mal, mais paradoxalement c'est assez simple. Pourquoi ils ont du mal ? Parce que notre problème, le problème de chacun d'entre nous, et moi y compris, c'est que nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il est. Nous avons peut-être des idées sur lui, bon, surtout beaucoup d'idées fausses, ça c'est sûr et certain, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, connaît son Père. Et son souhait le plus profond, c'est qu'à notre tour, nous puissions connaître Dieu tel qu'il est et non pas tel que nous l'imaginons ou tel que nous voudrions qu'il soit. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire quand on dit connaître Dieu tel qu'il est ? Voilà une petite question qu'on peut se poser. Eh bien, c'est savoir que dans son essence, dans son être, il est Dieu, amour et miséricorde. Et pour toucher ou sous-peser cet amour et cette miséricorde, eh bien, la preuve en a été donnée par la mort du Seigneur. Subir sa passion, accepter de la subir et accepter la croix. Nous donne, si je puis dire, la signature même du Fils. Révèle les sentiments qui habitent le cœur de Jésus, comme une sorte de tampon qui imprime en chacun de nous sa présence d'amour et de miséricorde. Alors, pourrions nous poser une autre question. Quels sont les sentiments qui habitent le cœur du Christ à quelques jours où nous allons vivre sa passion, sa mort et sa résurrection ? Bien l'angoisse, la confiance, la certitude et la victoire. Ça peut être l'un ou l'autre terme qui apparaît contradictoire. Or l'angoisse, on l'a bien entendu, maintenant je suis bouleversé, dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais non. Il y a eu une angoisse réelle, une angoisse humaine réelle du Christ, il ne faut pas l'oublier. Puis la confiance, au moment où il va s'abandonner en disant, non pas, que soit faite ma volonté, mais la tienne. Cependant, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et ici, chez Saint Jean, nous entendons, mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Et puis cette certitude, qui est très beau. avec l'image qui est donnée au verset 24 que nous avons entendu tout à l'heure, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Nous avons ici cette comparaison, cette allégorie de la graine qui tombe dans le sol, qui disparaît, qui meurt à nos yeux, mais en fait, elle porte en elle-même tout ce qu'il faut pour porter du fruit. À l'heure où le Christ est bouleversé, car il faut bien sûr se mettre à sa place, on voit l'attitude de l'abandon du Seigneur Jésus à la volonté de Dieu son Père. Puis nous avons la victoire, et cela rejoint de manière très forte ce que nous disions dimanche dernier sur la croix, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Oui, le prince de ce monde va être jeté dehors. » La victoire dont il s'agit ici, c'est celle de la vérité, tout simplement de la révélation de Dieu. Le prince de ce monde qui est jeté dehors, c'est celui qui, depuis le jardin d'Éden, nous mène en bateau, si je puis dire. Nous bourre la tête d'idées fausses sur Dieu. Alors qu'au contraire, nous l'avons dit dimanche dernier, en contemplant la croix du Christ, elle nous parle. Elle n'est pas simplement qu'un bout de bois. Elle nous parle et nous dit, en définitive, jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. Et on ne peut être que attiré par cet événement si important qui a fait basculer le monde. Et dans ce moment extrême, le Seigneur aura encore la force de dire « Pardonne-leur, Seigneur, et Dieu mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, n'ayons donc pas peur de lever les yeux vers la croix du Seigneur, où, comme je l'ai rappelé dimanche dernier, nous lisons à la fois l'instrument de haine qu'est la croix, l'instrument de haine et de douleur, mais l'instrument du triomphe, de l'amour. C'est très beau, ce paradoxe de la croix. Il faut aimer la croix et il faut aimer ce paradoxe. Très fort, j'espère qu'il vous parle. C'est mon vœu le plus cher pour chacun de vous au moment où nous allons aborder dans quelques jours le mystère de tout ce qui va se dérouler durant la semaine sainte. Oui, l'heure est venue de ce témoignage ultime que le Christ se donne à la vérité, et on pourrait dire mission accomplie. Amen.